Champagnac, chronique du crime et de l'innocence, la femme adultère et complice des assassins de son mari. Cette histoire tragique qui occupa le Parlement de Toulouse au commencement du XVIIe siècle n'intéresse pas moins par la qualité des principaux coupables que par les circonstances qui l'accompagnèrent. Il s'agit d'un religieux, le père Pierre Arias Burdeus, Augustin espagnol, docteur en théologie en l'université de Toulouse, longtemps renommé pour ses prédications et pour sa piété, et de Guillaume de Guéraud, conseiller magistrat présidial en sénéchaussée de cette ville, vieillard sexagénaire, recommandable par une conduite intègre dans l'exercice de son ministère et par une probité exempte de reproches dans toutes les autres actions de sa vie. Tous deux jouissaient de la considération générale et personne n'aurait jamais pensé qu'il pût un jour en être autrement. Mais, comme le dit avec raison un ancien philosophe, nul avant sa mort ne peut être réputé heureux. Une femme vint détruire le bonheur et l'honneur de ces deux hommes jusque-là si estimables. Elle les détourna du sentier de la vertu et les conduit en peu de temps au crime et à l'échafaud. Cette femme était portugaise. Elle se nommait Violante du Château. Elle était venue se fixer à Toulouse avec toute sa famille. Belle, séduisante, artificieuse, elle fit l'épreuve de ses charmes sur le religieux et le magistrat, qui tous deux s'enflammèrent bientôt pour elle d'une passion violente. Une circonstance assez extraordinaire dans cette aventure, c'est que les deux amants savaient qu'ils étaient rivaux, et que, loin d'en concevoir de la jalousie, ils semblaient vivre dans le meilleur accord et ne manquaient pas de se concerter pour assurer la fortune et le bonheur de la personne qu'ils aimaient. Dans cette vue, et sans doute aussi pour mieux cacher cette double intrigue galante, le conseiller Guéraud négocia le mariage de la belle portugaise avec un avocat de sa connaissance nommé Romain, habitant de la petite ville de Gimont, située à 10 lieues de Toulouse. Le mariage étant stipulé, les deux amants contribuèrent à former la dot de la demoiselle. Les noces furent célébrées et le mari se disposa à emmener sa femme dans sa ville natale. On aurait bien voulu le retenir à Toulouse en lui faisant espérer, en lui promettant de l'emploi comme avocat dans cette ville, mais soit qu'il ne se sentit pas capable de briller sur un aussi grand théâtre, soit qu'il eut déjà quelques soupçons de la conduite de sa femme, il persista dans son dessein de retourner à Gimont, où jouissait d'ailleurs de toutes les commodités et comptait parmi les premiers de sa profession. Cet arrangement était loin de faire le compte de nos amoureux. En faisant ce mariage qui devait pour ainsi dire leur servir de manteau, ils s'étaient imaginés qu'ils décideraient facilement l'avocat Romain à se fixer à Toulouse. Et le refus obstiné de celui-ci renversa toutes leurs espérances de plaisir. On employa 1000 expédients pour retarder le départ des deux époux. Mais, après bien des délais, ils partirent. Le conseiller Guéraud, comme ami du mari, les accompagna jusqu'à Gimont et demeura avec eux aux environs un mois. La lune de miel, on n'aura pas de peine à le croire, ne fut pas de longue durée. La légèreté de Violante et son humeur altière ne tardèrent pas à blesser son mari. Elle ne parlait qu'avec mépris du séjour de Gimont, des parents et des propriétés de Romain. En un mot, elle ne formait d'autre désir que de revenir à Toulouse. Le mari en conçut de la jalousie et du dépit. Il déclara formellement que son ménage ne quitterait pas Gimont, que la loi lui en donnait le droit et qu'il entendait être le maître d'en jouir. Dès lors, la mésintelligence éclata entre les deux époux, sans espoir de raccommodement. Le conseiller, qui avait été témoin de ces scènes conjugales, retourna à Toulouse, le cœur tout navré d'avoir mis si mal réussi en faisant un tel mariage. Il alla trouver le religieux, l'entretint des ennuis, de la langueur de leur chair violente, et surtout de la rudesse et de la sévérité du mari. Dès lors, ces deux hommes, également passionnés, ne sont plus occupés que des moyens de délivrer cette femme de la servitude où elle languit. Le conseiller, malgré les glaces de l'âge, manifeste encore plus d'impatience, plus de chaleur que son rival. Il a vu ce que souffre leur bien-aimée. Il fait à chaque instant une peinture vive, animée de sa malheureuse situation. Il retrace avec véhémence les emportements, la tyrannie de son mari. Ses entretiens exaltent leur imagination. L'adultère, si fécond en crime, leur inspire l'idée d'un meurtre. Ils formèrent l'horrible projet de faire mourir Romain, comptant bien d'ailleurs sur l'assentiment de sa femme, qui avait au conseiller avant son départ de Gimont, qu'elle avait la ferme volonté de secouer le joug à tout prix. Il n'y avait plus qu'à opter entre le fer et le poison. Le conseiller fit observer que l'éloignement pouvait rendre difficile et dangereux l'usage du poison. Il valait beaucoup mieux trouver un prétexte pour attirer Romain à Toulouse et à le faire assassiner. Le religieux applaudit à cet infâme dessein et remit sur le champ 100 écus au conseiller pour payer les assassins. Le conseiller Guéraud n'hésite pas dans l'exécution du projet. Il met dans sa confidence un jeune écolier de Toulouse, nommé Candolas, appartenant à une honnête famille, et un praticien nommé Esbaldi. Il les charge de trouver des gens de main pour commettre le crime et leur délivre une partie de l'argent qu'il a reçu. Puis il écrit à Romain pour le presser de venir à Toulouse pour se charger d'une affaire qu'il disait devoir s'y juger. Romain ajoute entièrement foi à la missive du conseiller. Il arrive à Toulouse, il reçoit les caresses empressées de tous les parents de sa femme, du religieux Burdeus et principalement du conseiller Guéraud, qui le reçoit dans sa maison avec cérémonie et fait préparer un festin splendide à l'occasion de son arrivée. Le religieux, Candolas, Esbaldi sont au nombre des convives. Après le souper, le père Burdeus se retire, les autres feignent d'aller faire un tour de promenade. Romain et le conseiller restent seuls. Ce dernier, pour faire passer la soirée et pour que les meurtriers eussent le temps de se réunir au lieu désigné pour le crime, se charge d'entretenir la conversation. Et quand il croit l'heure arrivée, il emmène Romain, sous le prétexte de faire un peu d'exercice, et le fait sortir par la porte de derrière de sa maison, qui était voisine de l'enclos du couvent des Cordeliers, lieu très peu fréquenté. Les meurtriers apostés attendaient leur proie. Il s'élance sur Romain et l'assassine de 17 coups de poignard. Le conseiller feint que Romain et lui ont été attaqués par des voleurs et que ces voleurs lui ont enlevé sa bourse et ont tué l'avocat qui voulait faire résistance. Sur cette annonce du conseiller, la nouvelle de cet assassinat parcourt aussitôt toute la ville. Les capitouls, accompagnés du guet, se rendent sur le lieu du crime. Mais en chemin, il rencontre, courant de toutes ses forces, tout hors d'haleine, le praticien Esbaldi qui fuyait après le coup. Cette fuite précipitée, à pareille heure, semble un indice suffisant. On l'arrête prisonnier et l'on fait transporter le corps de Romain à l'hôtel de ville. Cependant, le religieux, craignant que la détention d'Esbaldi ne fît découvrir ses complices, s'enfuit quelques jours après avec le jeune Candolas et se retira d'abord à Tourmain, ville protestante, puis à Millau et de là à Nîmes. Éclairé par la fuite du religieux, le Parlement de Toulouse décréta de prise de corps le fugitif, et des prévôts furent envoyés à sa recherche. Le père Burdeus fut arrêté à Nîmes, mais les magistrats de la ville le réclamèrent, disant qu'il était de leur religion, que la connaissance du crime qu'on lui imputait appartenait à la chambre de l'édit à Castres et non au Parlement de Toulouse. On dépêcha un courrier au roi avec la procédure pour prononcer sur ce conflit, et par arrêt du Conseil d'État, la cause fut renvoyée au Parlement de Toulouse. Les ministres protestants de Nîmes murmuraient contre cette décision et disaient que c'était en haine de ce que le religieux s'était converti à leur religion qu'on voulait le faire mourir à Toulouse. Mais le président de la Chambre de l'Édit imposa silence à ces murmures. Et au nom de l'obéissance due aux ordres du roi, il fit remettre Burdeus et Candolas entre les mains des prévôts envoyés de Toulouse. Ramené dans cette ville, le religieux subit les interrogatoires d'usage et l'on instruit son procès. Mais les voix furent partagées lors du jugement. Les uns le condamnaient à mort, les autres voulaient sursoir le jugement jusqu'à ce que le jeune écolier Candolas eût été appliqué à la question. Après quelques contestations, le premier avis fut adopté et l'arrêt de mort prononcé. Alors le religieux confessa son crime, désigna le conseiller Guéraud comme en ayant été le principal instigateur et en ayant dirigé l'exécution. Puis, après avoir manifesté un grand repentir de la part qu'il avait prise à cette action abominable, il accusa Candolas et Esbaldi de complicité. Quant aux assassins dont on s'était servi, ils s'étaient tous enfuis en Espagne. Après ces révélations, Burdeus fut conduit au supplice. En passant devant la porte du couvent de son ordre, il s'arrêta, les yeux pleins de larmes, pour exhorter ses confrères à une bonne et chrétienne vie, et il leur demanda pardon du scandale qu'il leur donnait. Lorsqu'il fut arrivé au lieu du supplice, il adressa à Dieu une longue et fervente prière, après quoi il fut décapité et ses quatre membres coupés en quartiers. Après cette exécution, qui eut lieu le 5 février 1609, le conseiller Guéraud, persévérant à se renfermer dans une dénégation absolue, fut appliqué à la question ordinaire et extraordinaire. Il subit la torture avec une constance inébranlable, sans que l'on pût arracher la vérité de sa bouche, jusqu'à ce que le premier président, l'ayant menacé de faire mettre aussi à la question son jeune fils âgé de 18 ou 20 ans, il s'écria alors que son fils n'était pas coupable et qu'il n'avait jamais rien su de ses affaires. La tendresse paternelle fut plus forte que la rigueur des tourments. Le malheureux conseiller s'accusa pour excuser son fils qui était innocent, et avoua la vérité, conformément aux révélations de son complice Burdeus. En conséquence, il fut condamné au même supplice, ainsi que Candolas et Esbaldi. Le conseiller Guéraud subit son arrêt le 12 février, Candolas le 13 et Esbaldi le 14 du même mois. Quant à la femme, autour de tous ces malheurs, condamnée à la peine capitale, elle fut conduite à la mort le 16. Avant de subir son arrêt, elle adressa aux assistants une allocution si touchante, si empreinte d'un vrai repentir, que tout le monde fondait en larmes en priant pour elle.